Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans l'entrepreneuriat pour tous, le podcast de Ladji et Audencia. Donc ici nous allons venir explorer l'entrepreneuriat autrement, donc comment chacun peut le gérer à sa manière et devenir acteur de ce changement.
Donc aujourd'hui nous partons à la rencontre de Amélie Créache, donc fondatrice de Studio Bali. Donc pour comprendre cette aventure entrepreneuriale, comment elle a vu le jour entre du coup intuition, expérimentation et rencontre. Du coup, Amélie, donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a démarré?
Donc, moi, je suis architecte. J'ai exercé pendant plusieurs années comme salariée à Paris. À la suite de quoi, étant en situation d'épuisement et voulant renouer avec mes origines, puisque moi, je suis d'origine coréenne, je suis partie pendant un an en Asie, en voyage. Et moi, ça a été vraiment un voyage initiatique, puisque jusque-là, j'avais plutôt été formée aux matériaux conventionnels. Je suis une industrie, je levais tout le monde de verre. Et lors de ce voyage, j'ai dû renouer avec des matériaux vernaculaires, comme le bois, le bambou, la pierre. Et j'ai pu aussi reconnecter avec plus mes sensations. Et ça m'a donné envie de revenir, mais en concevant et en construisant de manière beaucoup plus proche de la nature. Avec des matériaux.
Et ce voyage, ça vous a permis peut-être d'avoir encore plus de compétences sur un sujet que vous maîtrisez ou pas? Le côté peut-être moins européen ou je sais pas.
Oui, bah moi, ça m'a permis aussi de mieux asseoir mon identité. Je trouve que c'est important en fait dans ma pratique de tous les jours, c'est de savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs. Donc ça a été vraiment fondateur aussi pour ça.
Est-ce que vous partez avec un réseau de base?
Alors, non, puisque je ne suis pas de Nantes, donc je suis née à Séoul, j'ai grandi en Bretagne, ensuite j'ai fait mes études à Strasbourg et j'ai commencé à travailler à Paris. Et je suis arrivée à Nantes par hasard, ça devait être temporaire. Ouais. Donc, quand j'ai démarré à Nantes, je connaissais presque personne et encore moins dans le milieu professionnel.
Du coup, comment vous avez construit ce réseau?
Quand je suis arrivée à Nantes, je n'avais pas encore l'habilitation de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est une formation complémentaire qu'on est obligé de réaliser aujourd'hui pour devenir architecte inscrit à l'ordre. Et donc, je l'ai faite à Nantes. Et c'est à cette occasion que j'ai raccroché avec le milieu à la fois professionnel et étudiant. Et c'est aussi là, totalement par hasard, j'ai passé cette année-là avec mon futur associé. On n'a pas vraiment connecté à ce moment-là, mais comme on sortait de la même promotion, on a prêté serment le même jour. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connecté.
Ok.
La deuxième thématique qu'on voulait aborder, sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, c'est peut-être sur le risque et les incertitudes que cela peut apporter. Est-ce que vous êtes senti peut-être pas en danger directement dès que vous êtes lancé ou est-ce que c'était difficile de trouver un équilibre entre ça?
Oui, ça a été très difficile. Alors moi, je suis quelqu'un qui est plutôt qui est pas dans l'anticipation, donc j'avais pas du tout fait de prévisionnage. Je me suis lancée, pas comme je vous dis, j'avais pas du tout de réseau. J'avais pas non plus de capital. Et c'est juste que j'ai eu mes premiers projets personnels. Mais si j'avais vraiment calculé, ce pas des projets qui étaient rentables. Donc, c'est juste l'envie et puis les opportunités. Mais par contre, ça a été vraiment difficile de se lancer. Enfin, je suis partie avec ces handicaps-là qui étaient le manque de relations. Aussi, se lancer, je trouve que c'est beaucoup mieux quand on a une certaine sécurité financière, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. Je peux ajouter aussi que c'est le moment où j'ai eu un enfant. De nouveau, c'était pas calculé. Et j'ai vraiment peiné à trouver un équilibre ces dernières années. Ça a été difficile. J'ai failli relancer plusieurs fois, ouais, parce que c'était vraiment difficile de trouver un équilibre entre le lancement de mon activité et la maternité.
Et l'arrivée de votre enfant, c'était avant votre voyage ou après, du coup?
Alors, dans l'ordre, j'ai voyagé. Je suis venue m'installer à Nantes. Je me suis inscrite à l'ordre et j'ai eu mon enfant un an plus tard. On va dire, avec 2 ans, il y avait un nouveau projet.
Ok. C'était.
Donc là, ensuite, on voulait parler des collaborations dans votre parcours. Vous avez parlé tout à l'heure d'un associé. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler de votre associé?
Oui. Quand on devient architecte, il y a une journée de prestation de serment qui est assez formelle, où devant le pas, on s'engage sur le code de déontologie. Donc c'est un moment qui est très institutionnel et qui est pas toujours parlant pour nous, la jeune génération. Donc moi, j'allais un petit peu reculant par obligation. Et pendant qu'on était en assemblée générale, il y a un jeune confrère qui se lève et qui interpelle l'ordre, qui dit bah, « je profite de votre présence parce que vous ne répondez pas du tout à mes questions pareilles sur mes engagements militants », parce que lui, il intervenait dans des squats de personnes exilées. Mmh. Et nous, comment en tant qu'architecte, c'est comme les médecins. On a une obligation de... Alors les médecins, c'est de porter secours. Et nous, en fait, si on visite un bâtiment et qu'on voit qu'il y a une surface épaulée ou qu'il y a des désordres, on a le devoir de le signaler. Ou est-ce que si vraiment il y a un sinistre derrière, on soit appelé à la cause. Et lui, il intervenait dans des bâtiments qui étaient vraiment délabrés, qui étaient en plus suroccupés, etc. Et il demandait si le fait de s'inscrire à l'ordre, il valait mieux qu'il renonce à ces engagements-là au risque d'être poursuivi pour des causes en fait qui lui tenaient à cœur, ou qui valait vraiment séparer les choses, ou est-ce qu'il avait la possibilité de continuer à le faire. Et donc, moi j'entends cette intervention, je me dis, mais qui est cette personne incroyable? Ça résonnait vraiment très fort son intervention, et j'ai demandé à être mise en relation.
Et comme vous avez dit, du coup, pour les architectes, voir un bâtiment imprévu, est-ce que ça peut créer une sorte, peut-être c'est un devoir, mais est-ce que ça peut créer une sorte de concurrence peut-être entre architectes, peut-être pour récupérer le dossier ou pas du tout, c'est pas dans ce cas-là?
Non, pas du tout. Je dirais que c'est une question de sécurité. Ouais, vous voyez quelqu'un dans la rue qui est en train de convulser, enfin en tant que médecin, vous avez l'obligation de les porter secours. Et nous, quand on voit, l'architecture, si on peut comparer avec la médecine, c'est que le bâtiment, c'est un peu comme un grand corps, mais construit. Et nous, on a à charge de prendre soin de ce patrimoine. Et donc, quand on constate qu'il est en mauvais état, de le signaler.
Et ça a peut-être été quoi, du coup, votre projet avec votre associé le plus marquant que vous avez fait à ce jour?
En fait, c'est en lien avec cet engagement-là, puisque lui, de par ses interventions dans les squats, avait été mis en relation avec une association qui elle-même œuvrait en fait à la réhabilitation de logements pour les plus démunis. Et donc, à la suite de ça, ils nous ont confié la première commande de maîtrise d'œuvre qui était transformer ce squat. Donc c'était un squat de logement qui était vacant. Il y a une procédure d'expulsion qui avait été lancée. Et face à la mobilisation du voisinage, l'entreprise qui était propriétaire de ces logements a finalement cédé. Elle a offert les logements en fait à l'association en disant il y a vraiment un sens. En réalité, ces bâtiments n'étaient pas occupés, ils étaient hors d'usage. Donc, ça nous fait aussi plaisir de participer en fait à l'accueil migratoire. Et c'est un projet qui a été fondateur dans notre pratique parce que déjà, ça correspondait totalement à nos valeurs. Et au cours de ce chantier, on a pu continuer à faire vivre par l'implication citoyenne. On a organisé des chantiers participatifs. On a pu refaire les cloisonnements intérieurs en terre crue, qui est un matériau dont on continue la mise en œuvre. Le tout en chantier collectif.
C'est parfait.
Parce qu'elle n'avait pas une aussi forte notoriété au début, si, dès 2021. Parce que c'était pas difficile la période Covid, du coup, s'il a commencé en 2020, ce projet?
De toute façon, on parlait de Nice tout à l'heure, nous, on a vraiment failli couler. Tant pour le Covid, mais il y a eu toutes les suites, en fait, où des projets qui se sont arrêtés. Cette association, par exemple, a été mise en difficulté très sérieusement. Il y a eu beaucoup d'arrêts de chantier. Et nous qui démarrions notre activité, ça a été aussi très compliqué de freiner notre chemin.
Et du coup, maintenant, pour ce qui est des imprévus dans l'entrepreneuriat, vous avez déjà parlé de quelques difficultés. Ouais. Mais est-ce que parfois des difficultés ou des imprévus qui arrivent peuvent se transformer maintenant en opportunités pour vous?
Je ne sais pas si on peut appeler ça une opportunité, mais il y avait une autre chose que moi, je n'avais pas mesurée parce que j'étais finalement assez peu politisée quand je me suis lancée. Parce que vu qu'assise générale, une profession qui n'est pas très politisée, qui est habituée à être un peu au service. Et moi, je n'avais pas mesuré qu'il y avait autant d'inégalités homme-femme. Et ça a été un frein que j'ai rencontré, que j'ai découvert, d'autant plus en devenant maman en même temps. Et là où je dirais que c'est devenu une opportunité, c'est que moi, ça m'a donné une certaine rage, en fait, pour... Moi, j'ai pas voulu quitter. Enfin, ça aurait pu me le faire, mais à la place de ça, je me suis dit, moi, je constate ça de l'intérieur. Et je vais le signaler et je vais me battre pour que ça change. Et c'est pas à moi de m'adapter au système, c'est plutôt au système de... Et je pense que je suis arrivée quand même à une époque où il y a une certaine écoute vis-à-vis de ça. Donc c'est un des combats que je mène pour faire évoluer le cadre d'exercice dans ma profession. Pour faire aussi en sorte que les chantiers soient des lieux plus apaisés, puisque aujourd'hui c'est quand même des lieux de très fort conflit, voire de violence, et en particulier de violence sexiste. Pas seulement envers moi, mais globalement sur le chantier, il y a très peu d'artisanes, celles qui exercent, elles vivent vraiment des violences quotidiennes. Et je pense qu'en fait, en faisant évoluer ça d'un point de vue humain, c'est quelque chose qui peut bénéficier non seulement à l'ensemble de la profession, parce que une profession qui est plus amène pour les femmes, pour l'accueil de la vie, elle sera aussi sera des meilleures conditions de travail pour tout le monde. Et sur le chantier aussi, et pour moi, ça donne aussi une énergie plus bénéfique pour le bâtiment et du coup pour les futurs. Ça a vraiment renversé mon regard sur le monde et ma pratique. Donc je dirais, oui, si je puis dire, c'est qui m'importe.
Donc, au cours de l'interview, on a un peu vu comment s'est passée vraiment cette réflexion de la création du coup de Studio Bali. Et pour résumer, on voudrait savoir, en fait, avec du recul, est-ce que ce projet s'est construit par un constat, une vision claire, ou vraiment par la succession de petites actions de votre vie ? Petits événements, actions de votre vie.
Oui, non, c'était vraiment un fil de l'eau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut faire écho. En tout cas, ouais, ça correspond à comment je me construis. Et c'est aussi pour dire que ça peut se faire. Et il y avait, ça a amené aussi à avoir une vision peut-être plus incarnée et qui vient du réel plutôt qu'une posture théorique. Et même en fait, les approches un peu plus conceptuelles que je pouvais avoir de mon métier, moi, c'est vraiment la réalité du terrain, à la fois de ma vie et aussi du chantier qui m'a. Et des rencontres qui sont faites, qui m'ont amené aussi à me remettre en question et à remettre en question. Je trouve ça très important, ouais, d'être à l'écoute de ce qu'on vit, on traverse. Enfin, je pense qu'on ne vit pas les choses de manière, par hasard.
Donc merci pour cette interview, merci pour ces précieux conseils. Est-ce que vous auriez pour finir 3 conseils à donner à nous, étudiants qui veulent démarrer l'entrepreneuriat ?
De bien s'entourer, c'est important d'avoir un soutien. Moral, amis, famille, enfin voilà. Et toutes les personnes qui ne vous soutiennent pas, vous les dégagez de votre vie. Mais ça vaut pour tout, je crois.
Oui.
Et ensuite, ouais, de suivre son cœur. Je crois que c'est plus important que. Bon, surtout là, vous êtes en école de commerce, donc on doit quand même beaucoup parler de rentabilité. Mais c'est quelque chose qui est très prégnant dans la vie. Mais voilà ce que je vous dis. Ça a été fait en plaçant d'abord. C'était vraiment l'élan du cœur et ce qui me nourrit plutôt que penser à la rentabilité. Je crois qu'en fait, quand on fait ça, les choses viennent naturellement.
Donc, merci pour cette interview, merci pour ces précieux conseils. Est-ce que vous auriez pour finir 3 conseils à donner à nous, étudiants qui veulent démarrer l'entrepreneuriat ?
De bien s'entourer, c'est important d'avoir un soutien moral, amis, famille, enfin. Toutes les personnes qui ne vous soutiennent pas, vous les dégagez de votre vie. Mais ça vaut pour tout, je crois.
Oui.
Et ensuite, ouais, de suivre son cœur. Je crois que c'est plus important que... Bon, surtout là, vous êtes en école de commerce, donc on doit pas beaucoup parler de rentabilité. Mais c'est quelque chose qui est très prégnant dans la vie. Mais voilà ce que je vous dis. Ça a été fait en plaçant d'abord... c'était vraiment l'élan du cœur et ce qui me nourrit. Plutôt que penser à la rentabilité. Je crois qu'en fait, quand on fait ça, les choses viennent naturellement. Et une troisième, de prendre soin de soi. Pareil, je pense qu'on est dans une société qui est très performative aujourd'hui, avec on parle toujours d'objectifs et tout ça. Et si vous voulez durer, il faut des moments, prendre soin de son rythme biologique. C'est important de penser à ses limites avant les objectifs financiers, surtout.
Que financiers.
Alors, merci encore beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et du coup, on se retrouve dans un prochain épisode d'Entrepreneuriat pour tous.
À la semaine prochaine.